Louis Pergaud, Le roman du Mirou, Chien de chasse, deuxième partie, chapitre 1. Tant que ne fut point close la chasse, Lisée, chaque fois qu'il eut à sortir du côté des champs ou des bois, ne manqua jamais d'emmener son chien avec lui. Successivement, il lui apprit à bien faire les lisières sans oublier une rentrée, à tenir un champ de betteraves ou de pommes de terre, à vérifier les trèfles, à sonder les luzernes, à longer une haie de telle façon que le gibier partit du côté du chasseur. Et Miro ne laissa plus un seul buisson d'inexploré du jour où son maître, l'obligeant pour la 99e fois au moins à en fouiller un, lui fit déloger de son gîte un jeune levreau qu'il faillit pincer bel et bien et auquel il donna la chasse durant plus de 3 longues heures. Quand la clôture fut prononcée, le chasseur devint plus circonspect et Philomène lui aussi, pour éviter les coups de langue, les histoires et les procès-verbaux, garda sa chienne à la maison. Toutefois, comme les bêtes supportent difficilement la claustration, il la lâchait de temps à autre le soir venu. Mais Bélone, docile et bien dressée, ne s'éloignait du pays qu'avec l'autorisation de son maître. Lorsque le brigadier Martet rentrait le soir, lassé d'une longue tournée, le vieux chasseur, qui la connaissait dans les coins, comme doit la connaître un vieux de la vieille de sa trempe, allait trouver sa chienne à l'écurie et, branlant la tête d'un air entendu, lui disait simplement « Va !» Bélone comprenait et, sans s'attarder à rôdailler aux alentours, filait directement vers la forêt. Un beau soir, elle se souvint qu'elle avait en Miro un jeune camarade et se dit sans doute qu'il serait plus agréable et peut-être aussi plus fructueux de l'emmener avec elle dans cette expédition nocturne et cette partie de plaisir. C'est pourquoi, traversant le village et l'enclos, elle vint directement le trouver devant son seuil où il s'amusait à s'aiguiser les crocs sur un vieil os de jambon plus dur qu'un morceau de fer. Lisée était là. Après lui avoir souri en troussant les babines, s'être tortillé du cul comme il convenait pour le saluer respectueusement et lui avoir léché les mains de bonne amitié, elle répondit avec bienveillance aux caresses et aux mordillements de Miro. À 2 ou 3 reprises, la chienne lui pinça les oreilles ainsi qu'elle faisait autrefois pour prier le vieux Taillot de l'accompagner en guerre. En même temps, elle japota, modulant de la gorge quelques sons qu'il comprit parfaitement et que Lisée, depuis longtemps au courant de ses habitudes et de ses manières, ne manqua pas non plus de saisir. Il en sourit dans sa barbe de bouc qu'il empoigna à pleine main pour la peigner d'un geste familier. Sachant bien que son ami ne lâchait sa chienne qu'à bon escient, il accéda au désir de son chien qui, hésitant, tournait la tête de son côté, tout en conservant le corps dans la direction de Bélone, qui l'attendait un peu plus loin. « Vas-y, va » proféra-t-il simplement. Et d'un hochement de tête, il lui désigna la forêt. Tout heureux de cette permission, un peu ennuyé tout de même de partir sans le maître, il revint en hâte, lui sauter sur les genoux et le lécher. Puis, comme l'autre lui confirmait son autorisation, il fila comme une flèche rejoindre Bélone, qui l'attendait au trou de la haie. 1, 2, 3, qui l'attendait au trou de la haie du grand clos. Et, se mordillant les pattes, la gorge et les oreilles, et se grognant des gentillesses canines, les deux complices partirent dans la direction de la coupe. Lisée rallumait sa bouffarde quand Philomène arriva. « Eh bien » s'exclama-t-il simplement. « Ça y est » répondit Lisée. « Ils y sont. Elle est venue le prendre et il n'a pas été difficile à débaucher. Ah, ma foi non, je n'ai eu qu'à lui faire signe. » La bonne paire, conclut le chasseur. Avant une heure, il y en aura un quelque part à bêche ou au maguet qui n'aura pas à mettre ses quatre pieds dans le même sabot s'il tient à garer sa peau et ses viandes. L'ouverture aura lieu dans 2 mois, exposa Lisée. Il n'est pas mauvais qu'auparavant ils se fassent un peu le pied et la gueule si nous ne voulons pas les voir éreintés après la première semaine de chasse. As-tu déjà songé à tes munitions ? S'inquiéta Philomène.
Oui, répondit Lisée. Pour les cartouches de lièvre, je commanderai mes étuis et mes bourres à Saint-Étienne, afin d'être sûr d'avoir du bon. C'est un peu cher, mais tant pis.
Pour la chasse aux oiseaux, je ferai prendre au messager, quand il ira à Besançon, un cent de douille et de bourres ordinaires. Quant à la poudre, de la superfine numéro 2 pour les bonnes cartouches. Et pour les autres, Quinquin m'a promis 1 livre de poudre suisse, de la meilleure. Mais n'en parle pas surtout, je ne voudrais pas lui faire arriver des histoires à lui, ni à moi non plus.
J'en prends aussi, rassura Philomène.
Sa poudre, en effet, n'est généralement pas mauvaise. Et quand il s'agit de merle, de grive ou de jais que l'on tire de tout près, ça va toujours.
C'est égal. J'aurais du remords de viser un lièvre avec une mauvaise cartouche dans mon flingot.
S'il échappait, je ne pourrais m'empêcher de dire que c'est bien fait pour moi.
Écoute, interrompit tout à coup Lisée en portant l'index à sa bouche.
Loin, loin, à peine distinct dans le bourdonnement d'abeilles de la nuit silencieuse, un aboi s'élevait, suivi bientôt d'un autre et d'un autre encore.
Ils ont déjà lancé.
Non, non, pas encore. Écoute bien.
Et, en effet, l'instant d'après, la rafale hurlante du lancer retentissait, tandis que, silencieux, la prunelle vague, les paupières plissées, les 2 amis, tirant de leur pipe d'énormes bouffées, écoutaient voluptueusement cette musique sauvage qui les inondait d'une joie pure.
« Eh bien, je crois qu'il le mène, » conclut Philomène au bout d'un instant.
Le bruit de la chasse se perdit qu'ils écoutaient encore. La conversation reprit, un peu décousue, car tous deux, bien que parlant d'autre chose, prêtaient quand même toujours l'oreille aux rumeurs de la nuit. Et ce fut simultanément qu'ils interrompirent leur causerie en remarquant à voix haute.
« Il le ramène. »
Et en effet, on perçut distinctement le bruit de la chasse se rapprochant assez vite. Puis ce bruit décrut de nouveau et se perdit encore, et Philomène affirma.
Ils en ont pour un moment, mais ils peuvent s'en donner tant qu'ils voudront. Le brigadier n'aura pas envie ce soir de leur courir après. Il est revenu vanné de sa tournée d'aujourd'hui, et à 7 heures, il doit sûrement être en train de roupiller. 1, 2, 3. Il doit être sûrement en train de roupiller à côté de sa légitime. Moi, mon vieux, j'en vais faire autant.
Et moi, y tout, répondit Lisée.
Après avoir convenu, pour réduire les frais de port, de faire ensemble leurs commandes de fourniture, ils se séparèrent en se serrant la main. Et Lisée, rentrant dans la cuisine obscure, poussa le verrou, gagna son lit et s'endormit. Cependant, sur le coup de minuit, pris d'un besoin pressant et s'étant relevé en chemise pour aller pisser un coup sur le pas de sa porte, il put entendre, dans le grand silence approfondi de cette belle nuit de juillet, les 2 chiens qui, au milieu du bois du fait, menaient encore à une allure endiablée leur oreillard.
Crénom de nom, quel jarret ne put-il s'empêcher de s'exclamer avec admiration.
Et il revint se coucher, tout content. Le lendemain, au lever,
il trouva Miro, couché sur un petit tas de paille, sous l'auvent de la porte d'écurie. Il était crotté comme une demi-douzaine de barbets, n'ayant pas encore eu le loisir de vaquer aux soins de sa toilette. Le bout de sa queue, sur une longueur de 3 bons pouces, entièrement pelé et tout rouge, de même que ses cuisses et ses côtes disaient assez avec quelle ardeur il avait fouetté les buissons et s'était battu les flancs. Il se leva à l'approche du maître et le salua par des aboiements très tendres en se dressant contre ses genoux. C'est alors que Lisée remarqua qu'il était rond comme un boudin et jugea qu'il n'avait pas dû chasser, ainsi qu'il disait, pour la peau, jugement que Philomène confirma quelques instants plus tard en lui contant que sa chienne se trouvait être précisément dans le même état. Quand elle rentre vide, elle vient japper et appeler sous la fenêtre de ma chambre afin que j'aille lui ouvrir et qu'elle puisse manger ce qui reste dans les gamelles de la cuisine. Mais quand elle a fait chasse, je n'ai pas à me biler ni me déranger. Elle pionce dans un coin et ne réclame rien. Lui aussi, affirma Lisée. C'en est tout de même un que nous ne reverrons pas à l'ouverture. Mais il n'est pas mauvais, pour nous comme pour eux, qu'ils y goûtent de temps à autre. Ça les encourage et ça les dresse, les chiens, surtout quand ils sont jeunes, comme le tien. Mis en goût, en effet, par cette première et fructueuse randonnée, ce fut Miro qui, quelques jours plus tard, s'en fut faire visite à Bellone et la prier de l'accompagner à la chasse. Il faut croire qu'une telle expédition était inutile ou dangereuse ce soir-là, car Philomène, de qui la chienne, par de petites plaintes, alla solliciter l'autorisation réglementaire, opposa un veto énergique et sec à sa demande. Docile et plus obéissante que le chien, elle se résigna et s'en fut se coucher sur son coussin, à côté de la porte de la cuisine, tandis que Miro, bien décidé, partait quand même seul à la chasse. Il fut moins heureux cette fois que lors de sa première sortie. Et s'il lança tout de même et suivit un capucin, il n'eut pas la science ni le bonheur de le pincer et rentra très fatigué à la maison. Vers 2 heures du matin, Lisée fut réveillée par un long jappement un peu rageur sous sa fenêtre. Il n'hésita pas à sauter du lit et s'en fut ouvrir à son chien qui, efflanqué, affamé, se coucha après avoir fait une revue de détails des marmites, plats, assiettes, bols, seaux et chaudrons de la cuisine. La guélotte en grogna le lendemain matin, criant que cette sale bête l'avait empêchée de fermer l'œil de la nuit, qu'elle l'avait réveillée juste au moment où elle commençait à s'endormir, qu'elle lui avait fichu sa cuisine sans dessus-dessous et que, bien sûr, ces sorties-là, ça finirait par mal tourner un jour ou l'autre. Cependant, l'ouverture approchait. Les munitions commandées étaient arrivées à bon port, comme on dit, et les deux chasseurs en avaient fait le partage tout en se communiquant pour la 50e fois peut-être leur recette particulière concernant le chargement des cartouches. La demande de permis venait d'être envoyée à la sous-préfecture par les soins de Jean, le secrétaire de mairie. Lisée avait fait prendre auparavant chez le percepteur le reçu de 28 francs, ce qui provoqua devant Blénoir le facteur une scène de ménage terrible, d'ailleurs prévue depuis longtemps, et à laquelle les deux hommes ne prêtèrent que l'attention qu'elle méritait. Et puis, la veille du grand jour, devant Miro bien en forme, le braconnier, très loquace et débordant de joie, confectionna ses cartouches. Le fusil du père Denis, dûment dégraissé et astiqué, avait été décroché de la panoplie où il trônait parmi 3 vieux sabres de pompiers ou de gardes nationaux, un couteau arabe ou turc qui avait été sans doute fabriqué au Petit Battant ou à Rivotte, faubourg de Besançon, afin d'éviter d'inutiles frais de transport, un chassepot, souvenir des désastres,
et deux vieilles carabines simples, l'une à pierre, l'autre à piston, ornées des pontets en cuivre et munies de canons immenses. Avec un plaisir enfantin, devant son compagnon qui avait appuyé les pattes contre sa poitrine pour lui lécher la barbe, Lisée, deux doigts sur les gâchettes, levant et abaissant les chiens, fit sonner et résonner les batteries du flingot en interpellant Miro. « Hein, c'est-y avec celui-là qu'on va les descendre demain ?»«
Waouh !» applaudissait Miro.
« Et celle-là, en va-t-elle au Xirin ?» reprenait-il, en lui montrant une cartouche de 4 soigneusement sertie. « Il n'aura pas peur du coup de fusil, ce petit, au moins. »
« Non, c'est un grand garçon. »
Miro, qui probablement ne comprenait pas le sens particulier de chacune de ses confidences, en entendait tout au moins la signification générale et manifestait par des abois continuels, des frôlements câlins de tête, des grattements de pattes, d'incessants battements de queue, des velléités d'embrasser et de lécher son approbation et sa joie. Lisée, depuis longtemps, avait convenu avec Philomène qu'ils partiraient le lendemain, chacun de son côté, afin de tenir à peu près tout le terrain de la commune, et qu'ils se retrouveraient vers les 8h30, un peu plus tôt ou un peu plus tard, selon les hasards de la chasse, à la tranchée sommière du Fay, pour faire ensemble ce bois important et se poster au bon passage. Le soir, il prépara à Miro une bonne soupe épaisse et substantielle, car le lendemain, avant le départ, il ne voulait lui donner que quelques croûtes insignifiantes. Un chien courant, étant réputé, à juste raison d'ailleurs, chasser avec plus d'entrain et d'intérêt quand il n'a pas le ventre plein. Ce fait, il se coucha et s'endormit paisiblement, certain comme un vieux soldat de se réveiller à l'heure qu'il s'était fixée. Et en effet, à 3h30, le lendemain matin, il était debout. Il s'habilla, chaussa ses brodequins soigneusement graissés, mit ses houseaux, endossa sa vieille veste à grandes poches, boucla sa cartouchière sur ses reins, mit tremper un bout de sucre dans une goutte de marc pour avaler au moment du départ. Et, tandis que chauffait son jus sur la lampe à alcool, il alla ouvrir à Miro. Les deux amis se firent fête en se retrouvant. Petits mots d'amitié et abois tendres, caresses de la main et coups de patte cordiaux. Miro même essuya d'un large revers de langue la joue droite et le nez de son maître. Le coup de patte à relaver, l'excusa celui-ci en s'essuyant de la manche, un sourire d'indulgence aux yeux. Et, tout en buvant et mangeant, il envoya à Miro, qui les attrapait au vol, quelques tranches de pain qu'il avalait sans les mâcher. Là-dessus, heureux comme des rois, ils sortirent et, bien avant que le soleil ne fût levé, arrivèrent au haut des Cotards où ils voulaient commencer. C'était un bon matin. Un temps calme, une rosée suffisante, laissait un frais abondant aux endroits où le gibier avait passé. Dès qu'on longea le mur de la coupe, Miro, renonçant à son jeu favori, qui consistait à lever la cuisse à toutes les mottes et à toutes les bornes, se mit à quêter avec ardeur. Bientôt, il rencontra un frai, trouva une rentrée, s'engouffra dans le taillis, et le reste ne fut pas long à venir. 5 minutes plus tard, le lièvre déboulé filait par les sentiers et les tranchées du bois, avec le chien à ses trousses. « Il va monter, songeait Lisée, posté au haut du crêpe, à 50 mètres du mur d'enceinte. Il monte toujours. » Mais le capucin ne monta point et, zigzagant ainsi qu'un levreau, s'en alla faire au loin, toujours en restant sous le bois, un crochet assez grand. Cependant, la chasse marchait à un train d'enfer. Le chien, sans doute, serrait de près son gibier. Élisée, qui connaissait à peu près tous les trucs des oreillards, jugea rapidement. Il va sortir au sentier de bêche qu'il remontera. Et Miro va me le ramener par le chemin de la pâture. En hâte, il se porta vivement à ce poste, afin d'arriver assez tôt, car dans ces cas-là, il est préférable d'arriver 10 minutes d'avance que 5 secondes trop tard. Le braconnier avait eu bon nez de courir. Il n'y avait pas une minute qu'il était là, au bord du chemin de terre, devant un buisson avec lequel il se confondait, lorsqu'il vit l'oreillard s'amener, bride abattue, les oreilles basses, allongeant de toute sa taille, ventre à terre, littéralement. Un beau coup de fusil, jugea-t-il. Rien de plus simple qu'un tir en pointe, ni de plus sûr pour un chasseur exercé. Lisée, en amateur, jouissait intensément du court instant qui le séparait du dénouement de cette chasse. Le lièvre arrivait à une allure fantastique, et lui, immobile, la crosse à l'épaule, la tête légèrement inclinée, attendait calmement qu'il fût à portée. Au point strictement repéré d'avance, à 30 mètres, pas un de plus, ce qui eût compromis l'efficacité du tir. Pas un de moins, c'eût été un assassinat. Il pressa la détente de sa gâchette droite. Le coup retentit puissamment dans le calme du matin, et l'oreillard, lancé comme un bolide, vint bouler cul par-dessus tête à 15 ou 20 pas du chasseur. Miro, qui sortait du bois et arrivait au haut du sentier, fut étonné de ce coup de tonnerre formidable et s'arrêta net une minute pour écouter, car ce bruit terrible venait de la direction suivie par son lièvre. Il sentit qu'il devait y avoir du lisé dans cette aventure et n'en douta plus l'instant d'après quand il distingua la voix de son maître, le hélant à plein poumon. « Tia, Miro, Tia, par ici, Tia, mon petit !» Sans lâcher la voix chaude du lièvre, il reprit sa poursuite, en donnant à pleine gueule lui aussi, et arriva bientôt sur le lieu du drame, devant Lisée, dont le fusil fumait encore. Un Lisée riant d'un large rire, et qui du doigt lui désignait à terre un cadavre roux, allongé, saignant par les narines, sur lequel le chien se rua sans tarder et avec frénésie. « tout beau, mon petit, » calma le chasseur. « Ne le déchire pas. Allons, doucement, doucement. » Alors, sans haine aucune, comme s'il eût caressé Mitis ou Mout, Miro lécha doucement et longuement sa victime morte et la puça même d'avant en arrière et d'arrière en avant. Puis, excité sans doute par l'odeur du sang, il renifla le ventre et ouvrit la gueule pour y aller de son franc coup de dent. Lisée jugea que c'était suffisant et, lui reprenant bien vite le capucin, il commença par le faire pisser en lui pressant sur la vessie, et puis le mit immédiatement et sans façon dans la grande poche carnier de sa veste de chasse. Toutefois, pour que Miro n'eût pas couru pour rien et pour l'encourager à continuer, il lui coupa successivement à la dernière jointure les 4 pattes du lièvre et les lui jeta une à une. Elles disparurent comme une bouchée de pain, poils et os et griffes et viande, et Miro attendait encore, tandis que Lisée le félicitait tout heureux. « Hein, nous voilà dépucelés, mon vieux Mimi !» Comme l'autre, insensible au discours, attendait toujours, il voulut lui jeter un bout de pain et un morceau de sucre, qui furent profondément dédaignés. « Ah, il faut de la viande à monsieur, maintenant !»« T'es pas dégoûté, mon salaud !» marmonna le chasseur, en ramassant les provisions auquel son chien n'avait pas voulu mordre. « Attends un petit peu, mon vieux, tu les mangeras bien tout à l'heure. » Et la chasse continua.